parentalité hélicoptère ou les parents hélicoptères, c'est un terme ou une étiquette que je n'aime pas trop. Donc, je préfère de ne pas trop l'utiliser parce que c'est très culpabilisant vis-à-vis des parents. Très souvent, quand les parents sont décrits comme des parents hélicoptères, c'est issu d'une bonne intention ou d'une bonne motivation, puis potentiellement cette bonne intention se manifeste pas de la meilleure manière. Donc plutôt de parler des parents hélicoptères, je préfère de parler tout simplement de la surprotection parentale, qui est une étiquette plus proche de ce qu'on observe ou plus proche du phénomène dont on parle. Puis le parent va mettre en place la protection qui est excessive, donc qui n'est pas adaptée au niveau développemental de l'enfant. Pour donner un exemple relativement extrême, pour faire la distinction entre une protection qui est adaptée et la surprotection, par exemple, de laisser un enfant sortir tout seul à l'âge de 5 ans, là, ça serait une forme de protection adaptée parce que c'est dangereux pour l'enfant d'être tout seul dans le trafic. Par contre, si l'enfant a 17 ans, clairement, ce niveau de protection n'est plus adapté au niveau développemental de l'enfant. La préoccupation par rapport au danger, c'est souvent un des facteurs importants qui pourrait expliquer la surprotection, mais clairement, les risques et les dangers ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui que autrefois. Donc notre société évolue, puis il y a beaucoup de choses qui changent, y compris les risques avec lesquels on est confronté nous-mêmes, mais aussi nos enfants potentiellement. Par exemple, l'émergence des réseaux sociaux, c'est un phénomène relativement nouveau, avec certaines opportunités, certains risques. Puis en tant que parent, on doit trouver quelque part un milieu ou un équilibre ou une manière de réguler cet nouvel phénomène. Puis souvent, c'est pas aussi facile pour le parent de trouver ce milieu ou la meilleure façon de réguler ces pratiques-là ou d'éviter certains risques liés à ce phénomène-là. Un des déterminants ou un des sources potentielles ou un facteur de risque pour la surprotection, c'est notre relation au risque ou la manière comment on aperçoit le monde comme un endroit qui est dangereux et plein de risques. Puis ça peut amener à plus de surprotection, ou c'est en tout cas une hypothèse que je trouve très intéressante. Le constat ou en tout cas le vécu que notre monde devient de plus en plus inégal et de plus en plus compétitive, caractérisé par plus de précarité, ça pourrait aussi amener certains parents à être trop impliqués dans l'éducation de l'enfant. Puis le raisonnement là derrière, c'est que l'enjeu devient plus grand pour les parents. C'est-à-dire que les parents sont plus poussés d'être plus impliqués dans la scolarité. Puis l'idée là derrière, c'est qu'en poussant l'enfant à obtenir de meilleures notes, on améliore ses chances de pouvoir accéder à un certain type de formation plus prestigieuse ou qui pourrait amener à un job avec un salaire plus élevé, ce qui deviendrait de plus en plus important dans un monde qui est caractérisé par plus de précarité, plus de compétition sur le marché du travail, etc. C'est à deux facteurs qui vont nuancer à quel point des règles ou des interdictions seront suivies. De l'autre côté, il est important de considérer le domaine dans lequel ces règles seront situées. On peut distinguer entre plusieurs domaines, mais un domaine qui relève surtout à l'autorité quelque part de l'enfant ou de l'adolescent, c'est le domaine personnel. Puis là, on retrouve tous les aspects, toutes les questions en lien avec l'expression du soi, puis les relations de l'ado avec d'autres personnes. Donc c'est par exemple le choix des vêtements ou le choix de coups de cheveux ou bien le choix des amis, aussi le contenu de ces messages par exemple sur WhatsApp ou sur des réseaux sociaux. L'interférence des parents est souvent vécue comme plus illégitime, plus intrusive, puis du coup c'est plus probable que les adolescents vont transgresser ce genre de règles ou d'interdictions. Par contre, dans d'autres domaines, par exemple le domaine de la moralité, là, un cadre ou des règles ou des interdictions sont clairement beaucoup plus facilement acceptées. Le domaine de la moralité, ça concerne les aspects en lien avec l'intégrité physique, psychologique de l'autre personne. des exemples des règles dans ce domaine-là, c'est qu'on ne peut pas blesser d'autres personnes, ni physiquement, ni psychologiquement, émotionnellement. On ne peut pas mentir, il faut être honnête, etc. Puis là, un cadre ou la structure ou des règles ou des interdictions sont aussi plus facilement acceptées. Une deuxième nuance qu'on a étudiée dans nos recherches, c'était qu'il est important de considérer aussi de manière comment on va discuter de ces règles. Souvent, certaines règles seront plus complexes ou moi, en tant qu'adolescent, va voir quelque chose comme une intrusion, comme un choix personnel. Par exemple, l'heure de rentrer à la maison après l'école. Pour moi, c'est quelque chose de personnel parce qu'à ce moment-là, je vois mes amis, par exemple, tandis que pour le parent, c'est plutôt une question conventionnelle. Hein, à telle heure, on va manger, puis pour nous, c'est important de manger ensemble. Donc eux, ils se retrouvent quelque part dans un autre registre. Puis à ce moment-là, la question du style de communication ou la manière comment on va discuter de ces règles devient aussi importante. Puis dans nos recherches, on s'est surtout intéressé à deux styles de communication. De l'un côté, on a regardé les effets d'un style de communication qui est contrôlant. Puis dans ce cas, on va vraiment, en tant que parent, imposer les règles. On ne va pas considérer le point de vue de l'adolescent ou de l'autre personne. On va menacer ou avec des punitions, par exemple, ou on va faire la honte, faire du chantage émotionnel. Puis là, surtout, si on utilise un tel style en tant que parent, on a plus de risques, justement, que les adolescents vont chercher à transgresser ces règles. On a étudié ça avec plusieurs méthodologies, avec des études longitudinales, par exemple, où on a suivi des échantillons de parents et adolescents dans le temps. Puis on voyait si aujourd'hui les parents sont généralement contrôlants, s'ils mettent en place des interdictions, alors quelques années plus tard, on observait que les adolescents avaient plus tendance à justement transgresser ou rejeter ces interdictions et ces règles.
Alors c'est...
À l'autonomie se caractérise entre autres par la prise en compte du point de vue de l'enfant ou de l'adolescent, considérer son perspective, être à l'écoute, être empathique, essayer de comprendre son point de vue. Mais ici, je souhaite directement souligner que le soutien à l'autonomie, c'est pas forcément la même chose comme la permissivité. Donc ça n'implique pas que c'est l'adolescent qui a raison et qui va décider sur les règles ou sur les interdictions. C'est plutôt être à l'écoute de l'adolescent et donner l'opportunité à s'exprimer. Un autre aspect du soutien à l'autonomie, c'est aussi donner une explication qui est compréhensible, qui est pertinente, qui tient la route. Si le choix n'est pas possible, on va expliquer pourquoi, en tant que parent, c'est important de manger ensemble, par exemple, ou une telle fête de famille, pourquoi c'est important d'y assister tous ensemble. Pour nous, en tant que chercheurs dans le domaine de la psychologie du développement, c'est parfois difficile à trouver le bon équilibre entre donner des conseils de l'un côté, puis partager nos connaissances sur les effets ou sur les conséquences de différents types de parentalité de l'un côté, mais d'éviter d'ajouter de la pression aux parents par rapport à leur parentalité. Parce que de l'un côté, on a certaines connaissances et on sait que certains types de parentalité ont des effets positifs ou ont potentiellement des effets négatifs. Mais de l'autre côté, les parents d'aujourd'hui sont quelque part déjà bombardés avec beaucoup de conseils dans les médias, par d'autres parents, aussi par des experts qui se contredisent aussi parfois. Puis ça peut rendre les parents confus. Ça peut rendre les parents avec encore plus de questions plutôt qu'on donne des réponses. Donc c'est quelque chose que moi j'essaie d'éviter, d'augmenter cette pression ou de donner des questions ou des réponses magiques sur la manière comment il faudrait éduquer. Parce que, à mon avis, en soi, ça n'existe pas une phrase magique ou une manière magique qui marche pour tous les enfants. Les parents ressentent beaucoup de pression pour être le parent parfait. Puis ce qu'on observe aussi, c'est que ces parents auront justement des tendances plus surprotecteurs et seront justement surimpliqués dans l'éducation de leurs enfants.
Célèbre.